La santé, c'est l'affaire de tous.
Il est l'heure de parler santé sur Phare FM Montauban. Aujourd'hui, et il n'est pas retenu au bloc, pour notre plus grand plaisir, on accueille le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui?
Oui, bonjour Laurent. C'est un plaisir de vous retrouver effectivement aujourd'hui. Et en plus, effectivement, je suis disponible.
Le plaisir est partagé, merci. Alors j'accueille sans plus tarder ton invité, c'est le docteur Frédéric Renouvel, chirurgien gynécologue à l'hôpital de Montauban. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Nous sommes bien loin de la campagne de sensibilisation d'Octobre Rose, mais nous allons parler toutefois d'une maladie qui touche essentiellement les femmes, mais aussi les hommes, avec 61 214 nouveaux cas en France en 2023. Chiffre du site de l'Institut du cancer, le cancer du sein reste la maladie la plus meurtrière pour les femmes, sujet ô combien sensible. Docteur, vous avez l'antenne.
Merci beaucoup Laurent et merci beaucoup Fred pour ta disponibilité. Avant de commencer à parler de cette émission, peux-tu, s'il te plaît, te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, Frédéric Renouvel, je suis donc chirurgien gynécologue à l'hôpital de Montauban depuis maintenant plus de 10 ans. Et mon activité principale est donc la chirurgie, à la fois la chirurgie pour les pathologies bénignes, mais aussi les pathologies malignes comme le cancer du sein qui est le sujet d'aujourd'hui.
Alors, Laurent nous le rappelait en introduction, cette maladie touche beaucoup de femmes. Et je pose la première question, c'est quoi un cancer du sein?
Alors, le cancer du sein, comme tous les cancers, en fait, c'est une pathologie qui est liée au dérèglement cellulaire de l'organe. Donc, au sein du sein, il y a des cellules et elles vont se multiplier de façon anormale. Et quand elles se multiplient de façon normale, elles vont aller ailleurs avec un potentiel malin. Et c'est ça qui décrit la tumeur maligne. Et comme c'est localisé au sein, c'est le cancer du sein. Voilà. Et c'est extrêmement fréquent.
Est-ce que tu peux parler de la fréquence du cancer du sein?
Donc, c'est le cancer féminin le plus fréquent. Il touche une femme sur 8. Donc, c'est vraiment très important. Et ça représente un tiers des cancers chez la femme. C'est la première cause de mortalité chez la femme, avec environ 12 000 décès par an. Voilà. Donc, comme il est très fréquent, effectivement, il y a beaucoup de décès, mais en fait, c'est pas forcément un pronostic très sévère, parce qu'en fait, comme il est fréquent, il y a aussi beaucoup de survie. À un an, on a 97% de survie. Donc, c'est pas, il y a plein de formes différentes de cancer, et plus il est pris en charge tôt, et meilleure est la survie, et avec une survie qui est presque équivalente à des patients qui n'ont pas d'autres pathologies.
Est-ce que tu peux décrire quels sont les facteurs de risque pour un cancer du sein?
Déjà, le plus fréquent, c'est l'âge. Donc, c'est plutôt un cancer qu'on a entre 50 et 75 ans. C'est pour ça que le dépistage se fait à ce moment-là. Il est plus rare avant 40 ans. Et aussi, il est aussi un peu plus rare chez les personnes très âgées, même s'il arrive, mais parce que c'est des formes qui se développent très lentement. Donc, peut-être qu'il est là, mais on le voit pas et il n'a pas de conséquences sur la mortalité. Donc ça, c'est le premier facteur. Les antécédents familiaux. Donc ça, effectivement, quand dans la famille, il y a un antécédent chez les parents, le facteur de risque, il est augmenté. Et après, il y a d'autres facteurs où on peut pas tellement jouer dessus. Hein. C'est la puberté précoce, donc les jeunes filles qui ont leurs règles avant 12 ans, et la ménopause tardive. Tout ça, ça s'explique parce que la femme va être exposée plus longtemps à ses hormones naturelles et que globalement, les cancers du sein sont hormonodépendants. Et donc, ça s'explique par la physiopathologie de la maladie. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont l'obésité, qui est sûrement liée aussi à une diminution de l'activité physique, puisqu'on sait que l'activité physique, pour tous les cancers, plus on a une activité physique importante et on diminue le risque de cancer. Donc ça, c'est vraiment important, que ce soit avant, pendant et après la maladie. Donc c'est pas le sujet du jour, mais ça vraiment, c'est un message qu'il faut passer. Il faut avoir une activité physique tout le temps. Voilà. La contraception hormonale, ça fait aussi partie des facteurs de risque et le traitement hormonal de la ménopause. Ça reste des facteurs de risque, ça ne veut pas dire qu'il faut contre-indiquer tout ça, mais c'est plus dans une exposition un peu plus importante aux hormones. Comme c'est un cancer hormonodépendant, ça augmente un petit peu le risque de cancer. Et un autre facteur de risque qui est plus rare, ça représente que 5% des cancers du sein, c'est les patientes qui ont des mutations. Donc, les mutations les plus connues, c'est, je vais vous dire les noms, BRCA1, BRCA2. Elles sont connues parce que une grande actrice américaine, je crois, Angelina Jolie, a cette mutation et s'est fait opérer de façon prophylactique, justement pour ne pas avoir la pathologie, parce que c'est chez ces patients qui ont cette mutation, le risque de cancer du sein, il est entre 65 et 90%. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que, voilà. Mais c'est une population très ciblée, très, très minoritaire de cancer du sein. Donc, mais ça avait été l'avantage, enfin, ça avait l'avantage, voilà, de promouvoir le dépistage et de sensibiliser la population.
On parle souvent du cancer du sein chez la femme, mais est-ce qu'un homme peut aussi avoir un cancer du sein?
Eh oui, un homme peut avoir un cancer du sein. C'est rare, hein, c'est un cas sur 100 cancers. Enfin, c'est voilà. C'est essentiellement les formes familiales. Alors, pas, si on va pas dire à 100%, mais globalement, voilà, quand il y a une mutation, enfin, quand un homme a un cancer du sein, il faut rechercher la mutation parce que très souvent, il est porteur de cette mutation. Et voilà, donc il faut vraiment, voilà, c'est possible, mais c'est rare, hein, ça reste exceptionnel.
Comment on peut faire le diagnostic? Est-il possible d'avoir un cancer du sein sans le savoir?
Et oui, et c'est pour ça que l'intérêt du dépistage est majeur, parce que, et notamment entre 50 et 74 ans, parce que maintenant on a un examen, la mammographie et l'échographie, et maintenant il y a même d'autres techniques, la tomosynthèse qu'on utilise, qui permet vraiment de dépister la maladie avant qu'on ait les symptômes. Ça veut dire que on va faire le diagnostic sur une image, c'est-à-dire que la patiente ou le patient, c'est plus rare parce qu'en général, il a, avant qu'un homme fasse une mammographie, c'est qu'il se passe quelque chose dans sa poitrine. Mais chez la femme, elle va aller faire sa mammo, elle sent rien, le médecin va rien voir non plus, parce que ce qui va se voir, c'est l'image. Et en fait, on va prendre en charge une image et c'est ça qui, des fois, est difficile à vivre. Parce qu'en fait, on n'est pas malade et on comprend pas trop pourquoi on nous dit qu'on a quelque chose alors que on se sent très bien. Et voilà. Et donc, c'est primordial parce que justement, c'est dans ces cas-là que la survie est la meilleure, parce qu'en fait, on arrive dans des petits stades et on guérit en fait. Voilà. Donc c'est la première chose. Et ce qui est important aussi sur le dépistage, déjà, il est organisé au niveau national, donc les patientes, elles sont convoquées. Et il y a une double lecture, donc on améliore la performance, c'est-à-dire qu'il y a un premier radiologue qui va lire la mammographie. Et en fait, les mammographies, elles sont envoyées au centre de dépistage et c'est relu par un deuxième radiologue. Donc ça permet d'améliorer la performance de ce dépistage, qui est donc, on recherche une image qui est anormale. Et quand cette image est anormale, on propose de faire une biopsie et c'est comme ça qu'on va faire le diagnostic, avec du coup le traitement le plus simple possible, avec la meilleure survie derrière. L'autre, donc tu m'as demandé comment on pouvait faire le diagnostic. Bien sûr, ça c'est dans le cadre du dépistage. Après, il y a d'autres signes d'alerte et c'est là aussi où c'est important de s'écouter un petit peu en tant que femme, c'est de vérifier est-ce que le sein est déformé, est-ce que le sein a gonflé, est-ce que au niveau du mamelon ça gratte, est-ce qu'il y a une petite lésion qui ne passe pas un petit bouton, voilà. Mais si voilà, au bout d'un mois il se passe quelque chose et que c'est pas en train, que ça ne disparaisse pas tout seul, là c'est important de consulter pour faire un examen clinique par un médecin et faire effectivement l'examen de référence qui est la mammographie avec l'échographie mammaire. Voilà. Il peut y avoir aussi, c'est plus rare, mais un petit écoulement au niveau du mamelon, voilà, qui est le plus souvent sanglant. Voilà, ça, c'est des petits signes d'alerte. Mais maintenant, avec le dépistage, c'est vrai qu'on arrive quand même très souvent, la majorité des diagnostics sont faits lors de la mammographie de dépistage.
Est-ce que tu peux maintenant parler des traitements possibles pour un cancer du sein?
Alors, les grands principes, c'est bien sûr le premier traitement, c'est la chirurgie. Surtout quand le cancer est de petite taille, soit pas palpable ou très petit. Donc, on fait un traitement qu'on dit local. Le plus souvent maintenant, c'est une chirurgie où on conserve le sein. Ou quand on est amené à retirer le sein, très souvent, peut être associé, si la patiente le souhaite, une reconstruction dans le même temps. De temps en temps, cette reconstruction elle n'est pas possible tout de suite ou la patiente, c'est trop lourd parce que ça fait vraiment beaucoup d'informations d'un coup. C'est toujours des reconstructions qui peuvent se faire secondairement, voilà, avec plein de types différents. Donc, la chirurgie, elle reste quand la chirurgie conservatrice, hein, qui est du coup la chirurgie la plus classique, on va retirer en gros la boule hein, qui gêne du sein ou l'image avec plus ou moins un contrôle radiologique pendant l'intervention. Et on va retirer aussi un ganglion qu'on appelle le ganglion sentinelle. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de stadifier la maladie, de donner un stade à la maladie, de savoir si la maladie elle est juste localisée dans le sein ou si elle est partie ailleurs, au niveau des ganglions, au niveau du creux axillaire. Avant, il y a 20-30 ans, on faisait ce qu'on appelait des curages axillaires. Et c'est vrai que dans l'image des gens, il y a « Oh là là, j'ai un cancer du sein, on va m'opérer, je ne vais plus avoir de sein, je vais avoir un gros bras. » Voilà, ça c'est vraiment l'image un peu qu'on a de la prise en charge des cancers du sein. Maintenant, c'est vrai que comme on les prend à des stades très tôt, on peut à la fois conserver le sein et puis on va rechercher ce ganglion. En fait, on va chercher le premier ganglion relais. C'est pour ça qu'on l'appelle sentinelle. Donc, on a plusieurs techniques pour le repérer. Et du coup, on ne retire plus qu'un seul ganglion ou deux ganglions. Et donc, on laisse tous les autres. Et il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Et c'est une chirurgie aussi, c'est important de le dire. On peut le faire en ambulatoire. C'est-à-dire, les patientes, elles rentrent le matin, elles ressortent le soir. Elles ont vu juste un traitement avec du doliprane et un soutien-gorge de contention. Et c'est une chirurgie qui est beaucoup, beaucoup moins lourde qu'avant. D'accord? Donc, ça, c'est la chirurgie un peu classique. De temps en temps, effectivement, en fonction du stade, de l'étendue, on est amené à faire la mastectomie. Donc là, c'est un petit peu plus lourd avec une hospitalisation qui est plus longue. Mais dans la grande majorité des cas, maintenant, c'est un traitement où on peut conserver le sein. Et donc, c'est vrai que le vécu est complètement différent maintenant de la maladie par rapport à ça. Quand on garde le sein, donc il n'y a pas que la chirurgie, il y a aussi la radiothérapie. Donc, quand on conserve le sein, pour faire un traitement plus régional de la pathologie, on associe la radiothérapie, qui durent 15 à 20 minutes, qui sont étalées sur à peu près 20 séances. Donc, ça dure à peu près un mois et demi de traitement. Voilà, donc ça, c'est la prise en charge classique. Et la radiothérapie, c'est important parce qu'en fait, elle va remplacer ce qu'on faisait quand on retirait le sein. C'est-à-dire que ça va permettre de stériliser toute la zone autour de la chirurgie qu'on a réalisée. Voilà. Et après la radiothérapie, si les patientes, là ça dépend des critères de la maladie, mais on peut proposer aussi ce qu'on appelle une hormonothérapie. C'est-à-dire que, comme je disais au début, la majorité de ces cancers, ils sont hormonodépendants. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est plus fréquent qu'on a les règles très jeunes et la ménopause très tard. Du coup, on va aller bloquer les récepteurs aux hormones. Et donc, du coup, c'est ça l'hormonothérapie. Le but, c'est de bloquer et ça permet à la fois de limiter le risque de récidive locale, mais ça permet aussi de limiter le risque de cancer sur l'autre sein, puisque du coup, l'autre sein n'a plus d'influence hormonale. Voilà. Alors après, il y a aussi des fois où il y a la chimiothérapie. Donc ça, la chimiothérapie, les gens connaissent souvent un petit peu mieux. Ou c'est le traitement général, où là, effectivement, on met un petit boîtier sous la peau relié à une veine et qui permet de donner des traitements beaucoup plus lourds. Donc ça, c'est pour des formes plus agressives, ce que je vous disais, quand on cherche le ganglion. On n'est plus dans un stade local de la maladie.
Est-ce qu'on peut parler de récidive? À part si une femme suit bien son traitement, quelle est la possibilité qu'elle récidive de son cancer du sein?
Alors, les risques de récidive, plus on avance dans le temps, globalement, plus elles diminuent. C'est pour ça que dans la surveillance après cancer, le suivi, ça va se faire par une mammographie annuelle. Donc, bien sûr, le suivi n'empêche pas la récidive, mais le suivi permet de faire le diagnostic le plus précocement possible. Les patientes qui ont eu un cancer du sein, elles auront une mammo déjà tous les ans. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a la moindre petite modification, hop, tout de suite, on va intervenir. D'accord ? Et on a un suivi, voilà, tous les 6 mois, elles sont examinées pendant 5 ans. Et après, on repart sur un suivi classique. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 ans, on repasse à un risque de récidive qui est beaucoup moins important. Mais c'est vrai que tout dépend, enfin, plus que la localisation du cancer, c'est vraiment le type histologique de cancer, un peu comme pour un peu comme pour le poumon, si c'est des petites. Enfin, après on rentre vraiment dans un peu très spécifique. Voilà. Après, si c'est pris tôt, Si c'est qu'un stade local, c'est presque, je ne vais pas dire que ça ne récidive pas, mais c'est pas ce à qui on s'attend. Par contre, si on arrive et qu'on a un gros sein et qu'on est très jeune et que c'est un cancer du sein, oui, le risque de récidive, malheureusement, il est plus important. Parce que c'est des tumeurs plus agressives. Voilà.
Pour nos auditrices qui veulent connaître le cheminement d'un dépistage, quelle est la démarche à faire? Est-ce qu'elles prennent rendez-vous chez le médecin traitant ou elles viennent directement chez toi ou chez un autre spécialiste? Comment ça marche?
Non, ce qui est important, le plus important, c'est cette mammographie, si vraiment la faire tous les 2 ans, parce que le circuit, que ce soit à l'hôpital, mais ailleurs, partout au niveau national, il est vraiment bien fait. C'est-à-dire que toute la filière a été travaillée, tout ce parcours de soins a été travaillé en disant hop, dès qu'on a une mammo, on fait la biopsie, on a le rendez-vous avec le chirurgien ou l'oncologue derrière, enfin tout ça avec le psychologue s'il y a besoin, une infirmière d'annonce, enfin, tout un réseau derrière. Donc ça c'est la première chose et qui est très importante. Et déjà c'est majeur hein, parce que on est loin du 100% de dépistage. Hein. Et après oui, il y a une lésion d'alerte. Le plus simple c'est le médecin le plus facilement accessible. Donc si c'est le médecin traitant et le médecin traitant s'il voit une anomalie du sein, il peut prescrire la mammographie en disant nodule suspect. En général, les radiologues ils sont sensibilisés à ça. Après, si elle trouve pas, bien sûr, il faut venir en gynéco et on voit toujours. Enfin, si le motif c'est j'ai une boule du sein, ça va très vite. Ça va très vite.
Est-ce que tu observes dans ta pratique clinique une diminution de la morbi-mortalité ces dernières années?
C'est la première cause de décès de cancer chez la femme, mais en fait, c'est pas le plus méchant. C'est juste sa fréquence qui fait que c'est le plus mortel. C'est surtout la morbidité, c'est les effets secondaires, le fait de ne plus retirer les ganglions, de ne plus faire le curage axillaire, ça c'est majeur parce que elles ont plus le gros bara, il y a plus le lymphœdème avec la mobilité parce que au quotidien c'est ça qui gêne. Et au niveau psychologique, ça va beaucoup mieux. Elles sont beaucoup plus entourées, peut-être mieux comprises, on en parle plus, on a moins honte. C'est une pathologie. Alors pas il y a 5-10 ans, parce que maintenant c'est vrai, mais il y a 20 ans, les femmes, elles avaient tendance à pas consulter parce qu'elles avaient peur de dire qu'elles avaient quelque chose sur le sein. Donc c'est là-dessus où on a gagné. Je pense qu'on fait le diagnostic beaucoup plus précocement parce que la population est plus sensibilisée et que c'est pas honteux d'avoir il y a des pathologies, une fois que c'est rentré dans le dans le commun, il y a Octobre Rose, il y a plein de choses aussi, hein, les réseaux, les médias, tout le monde parle plus librement. Et je pense que, moi je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on voyait des patientes qui venaient pas consulter parce qu'elles n'allaient pas montrer à leur médecin traitant qu'elles connaissaient par cœur le nodule qu'elles avaient sur le sein parce que ça les gênait. Oh, j'allais pas montrer ça à mon médecin. Voilà. Et si, en fait, ça sert à ça le médecin. Et voilà. Donc je pense que ça on le voit un peu moins, on le voit moins, j'ai l'impression, de ma petite expérience.
Tu as dit qu'il y avait beaucoup d'améliorations, mais actuellement, selon toi, quels sont les points qui peuvent être améliorés?
Le vrai problème actuel, à mon sens, hein, c'est, et on n'y peut pas grand-chose, mais c'est la démographie médicale. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne beaucoup là en consultation, c'est de me rendre compte qu'il y a des patientes que je vois, elles ont mis 1 mois ou 2 mois à avoir le rendez-vous. Pas parce qu'on n'est pas là, hein, mais parce que on a du mal à trouver soit le rendez-vous en radiologie, soit en gynéco, soit le médecin traitant ou même le médecin traitant. Voilà. On a le problème en France en ce moment, c'est un petit peu ça. Enfin, c'est pas le sujet du jour, mais je pense que elles ont moins accès. Enfin, moins accès en général. Je parle pas pour le cancer du sein. Je pense que le médecin traitant, il est sur le Tarn-et-Garonne. Il y en a pas beaucoup. Donc après, c'est un peu comment trouver ces rendez-vous médicaux. Quoi. Donc ça, je ne sais pas si c'est un conseil à donner. Trouver un médecin traitant. Mais je pense que malheureusement, ça dépend pas des patientes. Quoi.
Tu as parlé de la difficulté à trouver un médecin traitant. Du coup. Un patient qui ressent une grosseur au sein, elle peut passer directement par son cabinet de gynécologie pour être prise en charge.
Donc, quelqu'un qui se, que le, oui, qui se sent une boule, une grosseur qui est apparue, qui passe pas, elle a pas de médecin traitant, elle appelle le secrétariat de gynéco, et on va lui dire, a dit j'ai une boule au sein, je suis inquiète, on va dire très bien. Alors souvent les secrétaires, parce que justement on essaye de gagner du temps, on dit bah, voyez votre médecin traitant pour voir s'il peut vous prescrire la mammographie, comme ça on gagne un petit peu de temps parce qu'on a l'examen qu'on va prescrire quoi qu'il arrive. Si elle n'a pas de médecin traitant, on dit très bien, on vous voit sous la semaine et moi je l'examine, mais quoi qu'il arrive, il me faudra la mammo et l'écho parce que la biopsie se fait sous mammo ou sous écho. D'accord? Et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. S'il y a besoin, après, des fois, on peut avoir des boules du sein et c'est pas un cancer, heureusement. C'est pas non plus, on n'est pas toujours dans les choses malignes, quoi. Heureusement, quand même.
Est-ce que tu as un message clé à passer aux auditrices, aux auditeurs?
Ce qu'il faut vraiment développer, et c'est le sport. Parce que le sport, vraiment, on diminue le risque de récidive. Enfin, pas le sport, mais l'activité physique adaptée. C'est vraiment ce... Voilà, moi, je veux qu'on insiste là-dessus parce que vraiment, ça diminue le risque de récidive, mais de façon drastique. Voilà. Donc maintenant c'est pas mal développé, donc je vais faire un petit peu de pub pour les Rubies. C'est l'association rugby qui a été développée à la base à Toulouse, mais maintenant ça se développe au niveau national. Il y a les Rubies à Montauban grâce à l'association Bouger pour s'en sortir. Donc c'est du rugby à toucher, ça développe plein de choses. On travaille les muscles du bras, on travaille l'estime de soi. C'est vraiment, c'est hyper bien. Il y a l'escrime aussi. Sur Montauban, l'escrime le fait aussi. Maintenant, il y a beaucoup de centres de sport qui ont des créneaux dédiés pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Voilà. Mais quels que soient les cancers, de toute façon, moi, j'en suis persuadée, l'activité physique adaptée ne peut que améliorer la santé, tant au niveau du cancer, mais aussi de son moral et de tout ce qui va avec, de sa qualité de vie, et c'est ça qui compte.
Bon, malheureusement, le temps passe très vite. Hein. On est obligé de finaliser ce sujet qui est très intéressant. Est-ce que tu as un message clé à passer à nos auditrices, nos auditeurs?
Dépistez-vous et faites du sport.
Bon, un grand merci, ma petite Fred, pour ton temps et pour ta disponibilité. Il faut que tu saches quand même que l'antenne est toujours ouverte. Si tu souhaites venir pour parler d'un autre sujet, tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Laurent, je te passe l'antenne.
Merci Edmundo, merci docteur Renouvelle pour effectivement ce sujet ô combien important qui est le cancer du sein. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission puisqu'elle est en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.